Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Mesdames et messieurs, nous avons évoqué la fois dernière les origines de l'esclavage militaire dans les régimes islamiques, ou plus exactement, l'apparition du paradigme mamelouk qui implique l'acquisition de l'esclave à un jeune âge et la formation systématique de cet esclave, formation militaire et plus largement psychologique, dans un cadre étatique sous le contrôle du souverain. Nous avons vu que la date exacte de la naissance du phénomène et donc sa paternité dans le califat abbasside ont fait l'objet de discussions et je me suis rallié à la thèse plaçant cette naissance du paradigme mamelouk non pas au début mais à la fin du IXe siècle de l'ère commune. Mais ce sont plus encore les raisons pour lesquelles les califes et les premiers émirs et sultans issus de la décomposition de l'Empire abbasside ont eu recours à cette espèce particulière de recrues qui sont véritablement matière à discussion. Pourquoi des étrangers ? Des Turcs de préférence. Pourquoi des esclaves ? Pourquoi des gens qui sont, au départ du moins, des non-musulmans ? Autant de questions. L'idée que les musulmans de naissance, arabes ou persans, n'auraient plus constitué assez rapidement un réservoir de main-d'œuvre militaire suffisant, ou, à plus forte raison, la thèse selon laquelle l'islam, par sa doctrine même, détournerait ses fidèles de la vie publique, ces conceptions paraissent contredites, vous ai-je fait remarquer, par le fait que ces régimes musulmans font en réalité coexister troupes serviles et troupes de musulmans libres. Ce serait ainsi plutôt dans un souci d'efficacité et de loyauté par rapport au souverain qu'il faudrait chercher les véritables raisons du recours au système mamelouk, le statut servile étant finalement secondaire par rapport à la formation systématique sous le contrôle du prince et à son profit pour atteindre le résultat recherché, c'est-à-dire la constitution d'un outil militaire performant et sûr. Un épisode de l'histoire des grands Seldjoukides à la fin du XIe siècle en apportera la preuve en même temps que cet épisode apportera une belle illustration de la prégnance du modèle mamelouk. C'était en effet des troupes tribales turkmènes qui, par leur nombre, leur pugnacité, leur rapidité, avaient permis à cette dynastie turque, les Seldjoukides, d'éliminer les vizirs bouyides qui contrôlaient alors le califat abbasside et qui l'avaient mis sous leur coupe. Les Seldjoukides, grâce à l'aide de leurs troupes turkmènes, avaient réussi à prendre le pouvoir à Bagdad et à édifier un empire à leur profit. Mais la dynastie, une fois bien installée, elle s'était, par un phénomène récurrent, sédentarisée et iranisée, et un fossé s'était dès lors creusé entre le pouvoir seldjoukide et ses congénères et anciens soutiens, les Turkmènes. Ces derniers, par leur indiscipline, leur mobilité, leur comportement pillard, étaient devenus un danger pour l'État sédentaire et pour la dynastie. D'où l'idée du vizir des sultans seldjoukides Alp Arslan et Malik Shah. Il a servi successivement ces deux souverains, l'illustre ministre Nizam al-Mulk, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, d'intégrer, son idée c'était d'intégrer une partie de ces Turkmènes, des jeunes bien entendu, dans l'armée régulière. Et ce ministre persan, qui avait préalablement servi une autre dynastie antérieure, les Ghaznévides, et qui avait été formé dans la grande tradition administrative d'une dynastie que j'ai déjà eu l'occasion de citer, les Samanides du Khorasan et de Transoxiane, eh bien, Nizam al-Mulk envisageait de faire de ces jeunes Turkmènes sélectionnés des sortes de Mamelouks, ou, pour parler comme lui-même, qui emploie un terme synonyme de Mamelouk, des sortes de Goulam. Le statut servile en moins, puisque ces Turkmènes avaient déjà été islamisés et qu'il n'était pas question, par conséquent, de les réduire en esclavage. Mais dans le raisonnement d'Izam al-Mulk, on voit bien que cette nuance juridique, servile ou homme libre, ne revêtait manifestement pas une importance primordiale. Voici comment il évoque son projet dans son ouvrage, ouvrage fameux, le Siyasatnama, le livre de la politique, ou le traité de la politique, qu'il compose en persan, en langue persane, en 1091. Et je cite Nizam al-Mulk dans la traduction de Charles Schaeffer. Il y a un titre à ce passage, de la nécessité d'entretenir des Turcomans au service, au même titre que les Goulams, les Turcs et autres gens. Les Turcomans, écrit Nizam al-Mulk, bien qu'ayant causé de sérieux ennuis et étant en nombre considérable, ont cependant acquis des droits à la bienveillance de la dynastie actuelle, les Seldjoukides, car ils lui ont rendu, au commencement de son établissement, de nombreux services. Ils ont beaucoup souffert pour elle et lui sont attachés par les liens de la parenté. Il faudra inscrire sur les registres de l'administration le nom de 1000 de leurs enfants, auxquels on attribuera, comme on le fait pour les Goulams, une résidence particulière. Comme ils devront rester continuellement attachés au service, ils apprendront le maniement des armes et les détails du service de la cour. Ils se trouveront au milieu de gens de bien, deviendront dévoués, ils serviront comme les Goulams et on verra disparaître de leur cœur l'antipathie qu'ils témoignaient à la dynastie. Quand il en sera besoin, 5 ou 10 000 hommes, désignés pour leur service qui leur sera demandé, monteront à cheval à la mode des Goulams dont ils auront l'équipement. Ils participeront de la sorte aux faveurs de la famille régnante. Le souverain acquerra de la gloire et quant à eux, ils seront satisfaits et contents. Donc, vous voyez l'attrait, en somme, qu'exerce ce modèle des Mamelouks au point d'essayer d'en faire un cadre dans lequel on pourra maîtriser une partie au moins des troupes turkmènes. À ma connaissance, ce projet n'eut pas de réalisation. Et peut-être était-il, sans doute, était-il utopique dans le principe d'imposer à des Turkmènes libres ce qu'on pratiquait avec de jeunes esclaves étrangers et païens, du moins au départ. En réalité, la façon pour les grands Seldjoukides d'écarter le péril représenté par leurs remuants congénères fut de les refouler à leurs frontières et d'en faire ainsi une sorte de cordon protecteur contre l'Empire byzantin en Azerbaïdjan, dans le Diyarbakır et en Anatolie. Une politique d'ailleurs d'une grande conséquence, puisqu'elle est à l'origine de la formation de la Turquie, à l'origine de la formation en Anatolie d'une Turquie. Mais n'anticipons pas. Pour revenir aux troupes d'esclaves des souverains musulmans médiévaux, elles se distinguent des autres composantes de leurs armées respectives par un lien plus direct, plus personnel entre le souverain et les troupes. C'est le lien de l'esclave à son maître ou de l'affranchi à son patron, qui a certes une dimension d'omnipotence susceptible d'engendrer tous les abus, mais aussi une dimension patriarcale, voire paternelle ou paternaliste, surtout quand l'esclave a été élevé auprès du souverain, parmi les enfants du souverain et sous sa surveillance. Le souverain passera ainsi régulièrement en revue sa garde d'esclaves, qu'on les appelle encore une fois mamelouk ou goulam. Il leur distribue à date fixe, en général tous les 3 mois, leur solde prélevé sur le trésor personnel du souverain, pour autant du moins que ce trésor suffit à y pourvoir. Sinon, il lui faut recourir à d'autres moyens pour rémunérer ses goulams et notamment à ses concessions foncières qu'on désignera du terme « dicta ». Si le souverain ne remet pas lui-même directement la solde à ses goulams, du moins il préside en personne à la cérémonie solennelle à laquelle ce paiement des soldes donne lieu. D'autre part, le souverain leur fournit leurs armes et leur équipement, en général sur les ressources de sa propre armurerie. Il leur attribuera des chevaux en provenance de ses propres haras et écuries. Sous le règne du calife Al-Mutadid, l'un des initiateurs du système mamelouk, si je m'en réfère à la thèse d'Étienne de la Vessière que j'ai mentionnée la semaine dernière, les casernes où sont formés les jeunes mamelouks sont établies à l'intérieur même du palais califal. Les chevaux sur lesquels ils feront l'exercice sont pris dans les écuries personnelles du calife Al-Istabl Al-Has, disent les sources. J'ai mentionné le rôle protocolaire des gardes royales issus de ce système mamelouk. Le souverain a à cœur de les parer des costumes les plus luxueux et de les doter des armes de cérémonie les plus précieuses, serties de joyaux montés sur or et sur argent. Ils font partie du souverain. En tout cas, si vous me permettez de paraphraser Kantorowicz, du corps symbolique du souverain. En ce sens, ils doivent exhiber ce qu'il y a de meilleur et de plus beau. C'est dans la partie orientale du monde musulman que le modèle s'est diffusé le plus précocement et le plus systématiquement, même si les mentions disponibles ne sont pas toujours assez explicites pour permettre d'en connaître les modalités précises dans chaque cas, dans le cas de chacune des dynasties. On a même pu se demander si le système adopté par les califes n'avait pas en fait des origines est-iraniennes, dans un sens large, c'est-à-dire khorassaniennes ou même transoxaniennes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire d'Asie centrale. à mon avis, écrivait déjà David Ayalon dans les années 1970, je cite, « l'iranisation et la mamelouquisation des armées abbassides constituent deux aspects inséparables de la transformation de l'aristocratie militaire musulmane. » Dire cela était bien suggéré des sources iraniennes, iraniennes au sens large, c'est-à-dire éventuellement sogdiennes, au système mamelouk. On pourrait interpréter dans le même sens, et cela confirmerait encore plus nettement une origine centra-asiatique, une notation de ces mémoires prétendument autobiographiques de Sebük Tegin, que j'ai largement cité la dernière fois, Sebük Tegin, le père de Mahmoud de Ghazna et l'ancêtre de la dynastie des Ghaznévides. Nous avons vu, si vous vous souvenez ce qui a été dit la semaine dernière, qu'après avoir été acquis par un marchand d'esclaves, ce jeune Turc, Sebük Tegin, tombé malade, avait été laissé en pension chez une matrone dans une ville de Transoxiane, et que celui-ci n'avait repris des forces, ne s'était rétabli qu'après que le fils de sa logeuse eût acheté et fait cuire pour lui de la viande accompagnée de lait caillé, dont il n'avait été que trop longtemps privé. En outre, ce fils complaisant, souvenez-vous de ce que disait Sebük Tegin, va lui donner également des leçons d'art militaire dans une sorte d'école qu'il tient et que fréquentent par ailleurs des jeunes gens libres. C'était, racontait Sebük Tegin, mon ambition d'apprendre le métier des armes, et ce jeune homme était passé maître dans ses arts. Les gens de Nagshab, la ville où il se trouve, lui amenaient leur fils pour apprendre les règles de maniement des armes et de la cavalerie, l'utilisation de la lance et de l'épée. Donc, vous voyez, ce que décrit Sebük Tegin, c'est une école privée en l'occurrence, par opposition aux écoles palatiales du système mamelouk une fois développée. Mais cette école privée n'est pas du tout un cas unique dans cette ville de Nagshab. Un géographe arabe du Xe siècle, Ibn Okal, écrit en effet, cette fois à propos de Samarcande, « Samarcande est le point de concentration des esclaves de Transoxiane et les meilleurs esclaves de la Transoxiane sont ceux qui ont reçu leur éducation à Samarcande. » Donc, vous voyez autant d'illustrations de l'existence d'écoles pour apprendre à des jeunes gens le métier des armes, en l'occurrence, ici, des écoles privées, mais on voit comment cette pratique a pu donner des idées au calife abbasside pour mettre sur pied le système mamelouk. Il n'est pas exclu, donc, qu'il y ait eu là une source d'inspiration pour les initiateurs de ce système. Si on regarde de plus près les différentes attestations que nous avons de la mise en place d'un tel système dans différentes dynasties musulmanes post-abbassides, nous voyons que au Khorasan, l'emploi de goulams royaux est attesté pour les dynasties dissidentes des Abbassides sous les Safarides qui succèdent dans ce même Khorasan à une dynastie précédente, les tahirides. Malheureusement, nous sommes obligés de d'énumérer un grand nombre de dynasties, elles se suivent, mais il est difficile de faire l'économie de ce cadre historique. Eh bien, l'émir Safaride, Yacoub bin al-Lays, aurait disposé ainsi de 2000 goulams qui paradaient dans les cérémonies de part et d'autre de son trône et donnait ainsi à ses apparitions toute la majesté souhaitable. Ils apparaissaient richement vêtus et portant des boucliers d'or et d'argent ainsi que des armes de parade. De même, une autre dynastie que j'ai déjà citée à propos de ces Bukhtéguines, les Samanides, donc qui règnent sur le Khorasan et la Transoxiane au IXe et Xe siècle, firent d'une garde servile sur ce principe le noyau de leur armée. L'un des souverains de cette dynastie samanide, Nasr bin Ahmad, aurait eu ainsi, d'après les sources, 10 000 goulams. Cette armée servile des Samanides est louée pour ses qualités par le géographe Istakri, qui vante leur discipline et leur courage dans la bataille. Quant à l'esclave turc Alptegin, que j'ai cité la dernière fois, donc gouverneur du Khorasan au nom des Samanides et conquérant de Ghazna, et qui, si vous vous souvenez du récit de Sebuktegin, acquiert cet esclave et tient absolument à l'acquérir, eh bien, ce personnage a fait partie de la garde esclave des Samanides. Nizam al-Mulk, que je citais tout à l'heure, qui avait été au service des Ghaznévides avant de passer à celui des Seljoukides, a consacré plusieurs pages de son Siyasatnama au système des goulams tel qu'il a fonctionné sous les Samanides. Et ces pages de Nizam al-Mulk sont souvent citées car elles constituent, il faut bien le dire, la source la plus précise, la plus développée sur cette question, sur la garde servile des Samanides. Mon collègue Jürgen Paul, que vous aurez la possibilité d'entendre au collège au mois de mai prochain, parce qu'il a été invité à y faire quatre conférences sur l'Iran islamique avant les Mongols, eh bien, Jürgen Paul a consacré une monographie à l'armée des Samanides et dans son texte, publié à Bloomington en 1994, il incite à considérer avec une certaine prudence les propos que tient Nizam al-Mulk sur la garde servile des Samanides. Il suppose en effet que Nizam al-Mulk a eu tendance à idéaliser le fonctionnement des goulams des Samanides avec l'idée, c'est l'interprétation de Jürgen Paul, que les Seljoukides, ses maîtres, étaient fortement menacés par les mouvements batini, c'est-à-dire en fait les mouvements chiites, ismaïliens, qui étaient très développés dans l'Empire et qu'on appelle batini parce qu'ils préconisent une interprétation non pas littérale, mais une interprétation du sens profond, batine, du Coran, eh bien, c'est pour parer à ce danger représenté par les Ismaéliens que Nizam al-Mulk, en vantant l'armée servile des Samanides, aurait voulu inciter les Seljoukides à mettre de l'ordre dans leur armée et à se doter, en somme, d'une armée suffisamment puissante pour combattre éventuellement les mouvements chiites. Quoi qu'il en soit, même si, encore une fois, il faut faire la part des choses et si Nizam al-Mulk a idéalisé, il est intéressant de voir ce que ce ministre dit de la façon dont était organisé de façon très rigoureuse, comme vous allez le voir, le cursus des goulams acquis par les Samanides et formés par les Samanides. Alors, c'est un autre chapitre, donc, du Siyasatnamé, dont le titre est traduit par Charles Schaeffer par « Organisation des esclaves du palais ». Voici quelle était la règle suivie à la cour des Samanides. On donnait graduellement de l'avancement aux esclaves en tenant compte de leur service, de leur courage et de leur mérite. Méritocratie, comme vous voyez. Ainsi, l'esclave qui venait d'être acheté faisait pendant un an son service à pied. Il marchait vêtu d'une tunique de Zendeneji. C'est un tissu de coton. Il faut faire très attention à la progression, n'est-ce pas, des tissus dont, au fur et à mesure qu'ils montent en grade, on habille ses goulams. Donc, au départ, un tissu de coton, vraisemblablement assez ordinaire, fabriqué dans le village de Zengene, aux environs de Boukhara, d'où le nom de Zendeneji de ce tissu. Donc il marche, vêtu de cette tunique de modeste coton, à côté de l'étrier de son chef. On ne le faisait monter à cheval ni en public ni en particulier, et il était puni si l'on venait à apprendre qu'il l'eût fait. Donc, chaque chose en son temps, on commence par aller à pied. Sa première année de service terminée, le chef de chambrée en prévenait le chambellan et celui-ci lui faisait donner un cheval turc, ayant seulement un filet dans la bouche, une bride et une têtière unie. Ça aussi, le harnachement du cheval va évoluer avec la progression du goulam. Quand il avait servi une année à cheval et le fouet en main, on lui accordait un ceinturon de cuir pour enceindre sa taille. La cinquième année, on lui donnait une meilleure selle, une bride ornée d'étoiles en métal, une tunique en daraï. Le daraï est, comme nul ne l'ignore, un mélange de soie et de coton. Donc, la soie commence à apparaître. Et on lui donne également une masse d'armes qu'il suspendait par un anneau à l'arçon de sa selle. Dans la sixième année, il recevait un vêtement de couleur plus luxueux. Et dans la septième, vous voyez, c'est quand même une longue éducation. On lui accordait une tente soutenue par un mât et fixée à l'aide de 16 piquets. Il avait 3 esclaves à sa suite et il était décoré du titre de chef de chambrée. Et si vous vous souvenez, dans le cas de Sebük Tegin, dont nous parlions la semaine dernière, c'est 3 jours après son entrée au service d'Al-Tegin qu'il était devenu chef de chambrée, c'est-à-dire le grade auquel on parvient, en principe, après 7 années de formation. Alors, chef de chambrée, il avait pour coiffure un bonnet de feutre noir, brodé d'argent, et il était vêtu d'une robe de genjé. Alors là, c'est de la pure soie. C'est de la pure soie, une étoffe, n'est-ce pas, réputée pour sa beauté et qu'on fabriquait à Genjé dans le Shirwan. Chaque année, il se voyait élevé en grade et en dignité. son train et son escouade étaient augmentés jusqu'au moment où il parvenait au rang de chef d'un escadron et enfin à celui de chambellan. Si sa capacité et son mérite étaient généralement reconnus, s'il avait fait quelque action d'éclat et s'était acquis l'estime universelle et l'affection de son souverain, il n'en devait pas moins attendre jusqu'à l'âge de 35 ans pour obtenir le titre d'émir et un gouvernement. Donc, vous voyez, une organisation très codifiée, très hiérarchisée. Et donc, Nizam al-Mulk poursuit, 35 ans, n'est-ce pas ? C'est à cet âge qu'Alp Tegin, l'esclave nourri et élevé par les Samanides, fut investi du gouvernement militaire du Khorassan. C'était un homme d'une fidélité éprouvée, d'une extrême loyauté, d'un grand courage, d'un sens rassis et de bons conseils. Il savait s'attacher les gens et il aimait les soldats. Il était de plus généreux, hospitalier et craignant Dieu. Et Nizam al-Mulk conclut, en un mot, il était doué de toutes les qualités qui distinguaient les Samanides. Vous voyez cette nostalgie de l'idéal samanide dont Nizam al-Mulk se fait ici l'écho. Alors, quant aux Ghaznévides, cette dynastie fondée par le fils de Sebük Tegin, Mahmoud de Ghazna, eh bien, ces Ghaznévides, à leur tour, ont disposé d'une armée d'origine très diverse, multiraciale, si vous voulez, mais le noyau central en était constitué par un corps d'esclaves, principalement turcs, auxquels seront ajoutés par la suite, quand Mahmoud de Ghazna conquérera le nord de l'Inde, auxquels seront ajoutés des Indiens. Et le fils de Mahmoud, fils et successeur de Mahmoud, Massoud, disposait ainsi, d'après les chroniques, de 4 à 6 000 goulams, commandés par un général propre à cette armée de goulams, qu'on appelle le Salari Goulaman. Il servait à la fois de troupe de choc dans les combats et de corps de parade dans les cérémonies royales. On voit, pour poursuivre notre petit tour d'horizon, le même système de goulam ou de mamelouk, se diffuser dans les régions voisines. Ces souverains qu'on appelle les Shirwanshah, c'est-à-dire les princes du Shirwan, qui ne sont pas musulmans, mais qui sont yazidis, donc d'une autre religion, adorateurs du diable, comme on fait leur réputation. Eh bien, les Shirwanshah, à leur tour, avaient, sur l'exemple de leurs voisins, des gardes personnels de goulam. De même, au siècle suivant, au XIe siècle, qui correspond au Ve siècle de l'Égire, les dynasties turques islamisées, originaires d'Asie centrale, qui apparaissent, vont suivre le même principe et vont se doter, elles aussi, de ces corps de goulam. C'est ainsi qu'en 1008, donc vous voyez au début du XIe siècle, le souverain Karakhanide, les Karakhanides étant une dynastie turque islamisée, donc ce souverain s'appelle Iligran Nasr, il emploie un corps d'archers composé de goulams turcs, mais pas les mêmes turcs que la dynastie, un autre peuple turc, dans les guerres qu'il oppose à Mahmoud de Ghazna. Au siècle suivant, les goulams karakhanides se comptent par plusieurs milliers. Les souverains seldjoukides, à leur tour, dont je parlais, que j'ai évoqué au début, pour leur démêler avec leurs congénères turkmènes, se dotent eux aussi de Ghulam, comme le préconisait leur ministre Nizam al-Mulk, mais non pas de Ghulam formé à partir de ces jeunes Turkmènes, le cas que je vous citais précédemment, mais de vrais Ghulam, c'est-à-dire composés d'esclaves. Chez ces Ghulam Seljoukides, il y a encore des Turcs d'origine, mais aussi des esclaves d'origine plus occidentale, des Grecs et des Arméniens, ainsi d'ailleurs que des Noirs qui sont désignés dans les sources comme Al-Hudam al-Hubush, n'est-ce pas, les serviteurs abyssins d'Abyssinie. Quand le pouvoir seljoukide, qui ne va pas durer très longtemps, commence à fléchir, à donner des signes de faiblesse, on voit des officiers de l'armée seljoukide, qui sont des esclaves, devenir les tuteurs de jeunes princes de la dynastie. C'est ce qu'on appelle les atabeys. Eh bien, ces atabeys prennent le pouvoir localement et constituent à leur tour des dynasties provinciales dans différentes régions de Syrie et d'Iran, en Azerbaïdjan, dans le Fars, dans le Khouzistan et dans le Khorasan. Alors, sur les ghoulams de ses maîtres, c'est-à-dire les ghoulams des grands Seljoukides, Nizam al-Mulk a également des commentaires dans son Siyasat Nama, mais comme vous allez le voir, toujours par référence à l'idéal samanide, Nizam al-Mulk critique la façon dont sont tenus les ghoulams des Seljoukides et il suggère un certain nombre d'améliorations pour que ça marche mieux. Alors, c'est le chapitre 27 du Siyasat Namé, dont le titre est « De l'organisation des esclaves du prince et des mesures à prendre pour ne pas les fatiguer quand ils sont de service ». Il ne faut point, donc, écrit Nizam al-Mulk, harasser sans nécessité les esclaves qui se tiennent debout, prêts à exécuter les ordres qu'on leur donne. On ne devra pas non plus les exercer sans cesse à tirer de l'arc, mais il faudra leur apprendre à se rallier rapidement quand ils sont dispersés et à se mettre avec la même promptitude en ordre dispersé. Vous voyez, l'idée, c'est que ces mouvements des troupes, rassemblement et dispersion, c'est plus important que de leur demander de rester debout toute la journée en attendant un éventuel ordre ou de les exercer au tir à l'arc à longueur de journée. On leur enseignera également la façon dont ils auront à se conduire et il ne devra y avoir aucune confusion dans les ordres qu'ils recevront quand on désignera chaque jour celui qui sera chargé de porter l'eau ou les armes du prince, le sommelier ou celui qui sera préposé à la garde-robe ou autre détail du service de la cour. Donc on voit encore combien il s'agit à la fois d'une armée d'élite, mais aussi d'un corps palatial et dans lequel sont puisés notamment les pages qui assurent le service personnel du souverain. On préviendra également ceux qui devront être aux ordres du grand chambellan ou du grand émir, afin que tous les jours, ils se présentent de chaque chambrée le nombre de serviteurs qui sera indiqué. On agira de même afin de prévenir tout embarras avec ceux qui seront chargés du service particulier du prince. Autrefois, les esclaves étaient, depuis le moment où ils avaient été achetés jusqu'au jour de leur vieillesse, soumis pour leur éducation et leur avancement à un règlement universellement accepté. Mais, conclut Nizam al-Mulk, un règlement qui est tombé en désuétude à l'époque actuelle. Parmi les diverses, les multiples rameaux issus du tronc seldjoukide, nous devons accorder une attention particulière à cette dynastie seldjoukide provinciale qu'on appelle les seldjoukides de Roum, littéralement de Rome, c'est-à-dire en fait d'Asie mineure, ou qu'on appelle également les seldjoukides de Konya, du nom de la ville de Turquie qui était leur capitale. Il s'agit d'une dynastie apparentée à la dynastie principale, apparentée aux grands seldjoukides, qui s'impose sur une partie de l'Anatolie à la fin du XIe siècle et qui va fonder, autour de la ville de Konya, que je viens de citer, un sultanat prospère et brillant jusqu'à sa défaite devant les Mongols à la bataille de Kösedag en 1243. Dès lors, les Seldjoukides de Konya seront affaiblis, vassalisés par les Mongols, mais ils subsisteront néanmoins, aussi affaiblis qu'ils soient, jusqu'au début du XIVe siècle. Alors pourquoi je dis qu'il faut accorder une attention particulière à ces Seldjoukides de Konya? Parce que ce sont les patrons, en quelque sorte, et les prédécesseurs immédiats des Ottomans, comme d'ailleurs des différentes autres principautés turkmènes qui s'établissent sur le pourtour du sultanat seldjoukide de Konya en Asie mineure. Et par conséquent, ces seldjoukides de Roum ou de Konya sont susceptibles d'avoir été non pas seulement des inspirateurs indirects, comme ces différentes autres dynasties du passé musulman que j'ai rapidement mentionné, mais peut-être bien des inspirateurs directs du système que nous verrons fonctionner dans le cadre de l'Empire ottoman. Malheureusement, nous ne disposons pas sur les goulams des Seldjoukides de Roum d'une documentation spécifique et vraiment satisfaisante. En fait, on peut tout juste glaner un certain nombre de renseignements, d'allusions chez les chroniqueurs du temps et particulièrement chez un auteur de la fin du XIIIe siècle qui est une source essentielle pour l'histoire de ces Seldjoukides de Roum, Ibn Bibi. Ces Seldjoukides d'Asie mineure obtiennent des esclaves en lançant des raids contre les petits États chrétiens qui subsistent en Asie mineure à leur époque, au nord et à l'ouest. Ce sont les Grecs de ce qu'on appelle très pompeusement les empires de Trébizonde et de Nicée, qui sont en fait des petits principautés grecques qui se sont constituées en Anatolie après la conquête de Constantinople par les croisés de la quatrième croisade en 1204. Et puis, il y a également, au sud-est de l'Asie mineure, un autre petit royaume chrétien, celui de Cilicie, ou ce qu'on appelle la Petite Arménie. Eh bien, ces États grecs ou arméniens d'Asie mineure constituent manifestement des sources d'approvisionnement en esclaves pour les Seldjoukides de Roum. Et ils font également, cela est attesté, des prélèvements de la même façon sur des populations du Caucase et de Crimée. D'autres achats d'autres esclaves sont fournis au sultan par au moyen d'achats ou de dons. On trouve des goulams utilisés comme pages dans la plupart des services du palais et dans le corps de garde du sultan. Certains de ces pages seront appelés à occuper au fur et à mesure les plus hautes fonctions au palais, dans l'administration provinciale et dans le commandement de l'armée. C'est du moins ce qu'on peut déduire d'un certain nombre de biographies individuelles qu'on réussit à reconstituer. Il existait en outre des corps de troupes d'esclaves qui apparaissent chez les chroniqueurs de cette époque sous différentes dénominations. On trouvera par exemple le terme muferred, vous voyez, littéralement ceux qui sont séparés, ceux qui sont mis à part. Mais on trouve également, et ça on comprend très bien la raison d'être de cet emploi, l'expression gulamani has, c'est-à-dire les esclaves qui appartiennent en personne au souverain. On trouve également une autre expression chez les chroniqueurs pour désigner ces goulams, expression un peu surprenante de prime abord, mulazim yatak, c'est-à-dire littéralement les candidats, les aspirants du lit, non pas au lit, mais du lit. Et vraisemblablement, il s'agit d'une dénomination pour les pages de la chambre royale, n'est-ce pas ? De la même façon, d'ailleurs, que, comme on va le voir, les sultans ottomans auront dans leur palais de Topkapı des pages chargés d'assurer le service de leur chambre privée. Ce qui est encore plus intéressant à retenir, c'est qu'on trouve chez Imbibi une mention de la Gulamhane, c'est-à-dire littéralement la maison des esclaves. Et on peut penser qu'il s'agit d'une désignation d'une école dans la bonne tradition où sont formés ces jeunes garçons. D'ailleurs, nous savons qu'ils étaient confiés à des maîtres qu'on appelait baba, littéralement, n'est-ce pas, des pères, chargés de procéder à leur éducation. Et ce qu'on constate chez les Seldjoukides de Roum, aussi fragmentaires, comme vous voyez, que soient les informations, a existé, selon toute vraisemblance, dans les différentes petites principautés turkmènes auxquelles je faisais allusion il y a un instant, qui surgissent sur le pourtour du sultanat seldjoukide. Bon, on n'a pas beaucoup de renseignements à ce sujet, mais on peut signaler cependant que dans la tournée à laquelle procède la tournée de ces différentes petites principautés turkmènes, à laquelle procède un voyageur fameux vers 1331, Ibn Battuta, n'est-ce pas ? Le voyageur originaire de Tanger, Ibn Battuta, donc, parcourt l'Asie mineure en 1331, comme je viens de vous le dire, et il fait la visite de ces différents petits émirats et il nous donne des renseignements sur beaucoup d'entre eux. Et spécifiquement, il mentionne la présence de mamelouks dans un certain nombre de ces émirats, ceux d'Antalya, de Birgi, de Kastamonu, de Sinope, de Kayseri. Et notamment, il décrit le hall de réception d'un de ces beys, le bey de Birgi, n'est-ce pas ? une ville d'Anatolie qui n'est pas très éloignée d'Izmir, eh bien, dans le hall de réception du bey de Birgi, il remarque 20 pages grecques dont il dit qu'ils sont d'une beauté rare, revêtus de soie et ayant sur la tête une coiffure singulière, dit-il. Qu'il y ait eu ainsi des esclaves grecs à la cour des Seljoukides de Roum et de différents beys turkmènes anatoliens ne laisse pas de doute. Mais pour autant, étant fondé à y voir le précédent direct de ce qui va caractériser le système à l'époque ottomane, c'est-à-dire le defshirme. Est-ce que du fait qu'il y avait des esclaves grecs aussi bien chez les Seljoukides de Roum que dans ces différentes petites principautés anatoliennes, on peut conclure, ah ben voilà, c'est ça l'origine du defshirme ottoman, puisque, en effet, dans le defshirme ottoman, le ramassage des jeunes garçons, on trouvera de jeunes Grecs, ainsi d'ailleurs que des ressortissants d'autres populations, de populations slaves notamment. Eh bien, c'est la déduction qu'a tirée un peu vite, à mon sens, un historien, Spiro Vrionis, historien bien connu, qui a publié en 1965, ce n'est pas tout récent, un article « Seljuk Ghulams and Ottoman Defshirme » où, comme le titre l'indique, il établit un lien très direct entre ces esclaves grecs des Seljoukides et le système ottoman. Je reste pour ma part très dubitatif dans la mesure où, pour ce qui concerne les esclaves grecs de ces beys turkmènes ou des Seljoukides de Roum, bon, nous savons qu'ils étaient grecs, mais nous ne savons rien de leur statut. S'agissait-il de harbi, c'est-à-dire de chrétiens du pays de la guerre, ou s'agissait-il, comme ce sera le cas dans le defshirme ottoman, de zimi, c'est-à-dire de sujets théoriquement protégés par le sultan. Et cette différence de statut juridique, si vous voulez, essentielle, est à prendre en considération pour assimiler, comme le fait, me semble-t-il, ou comme le faisait, me semble-t-il, un peu vite, Spiros Vrionis, pour assimiler Seljuk Ghulams and Ottoman Defshirme. Bon, je reviendrai, bien entendu, plus en détail sur tout cela et sur ce qui caractérise le defshirme ottoman, mais il fallait malgré tout mentionner, bien entendu, ce précédent de l'époque des Seljoukides de Roum et de l'époque des Beyliks. Si je poursuis encore un peu mon tour d'horizon des attestations de Mamelouk dans différents États musulmans, tout en constatant, tout en regrettant que bien souvent on ait des mentions de ces Mamelouks, mais sans beaucoup de détails qui permettent d'en savoir plus sur eux. Eh bien, on peut signaler que des dynasties qui vont apparaître après les grands Seljoukides au Khorasan, des dynasties que les historiens désignent par les termes de Gouride ou de Khwarizm Shah, c'est-à-dire Shah du Khorezm, feront à leur tour un usage non pas exclusif, mais néanmoins massif de troupes d'esclaves. Dans toutes ces parties orientales du monde musulman, que j'ai donc passé en revue, l'invasion mongole, avec ses techniques de conquête et de domination, va marquer un coup d'arrêt à la reproduction continuelle qu'on avait pu constater du modèle mamelouk ou goulam. Mais ce coup d'arrêt de l'invasion mongole est provisoire, car le système va refaire surface chez les Mongols iranisés eux-mêmes, n'est-ce pas, dès lors qu'ils s'iranisent, puis dans les dynasties turkmènes qui feront suite aux Ilhan mongols d'Iran. C'est ainsi, par exemple, qu'un traité militaire Akkoyunlu, les Akkoyunlu sont une de ces, les moutons blancs littéralement, sont une de ces grandes confréries turkmènes qui vont constituer des états nomades importants, faisant suite aux Ilhan mongols d'Iran, eh bien, ce traité militaire Akkoyunlu de 1478, c'est-à-dire de l'époque du plus grand des souverains de la dynastie Akkoyunlu, Uzun Hasan, qui sera l'adversaire de Mehmed II, le conquérant de Constantinople, eh bien, Uzun Hasan aurait eu 3900 kulukche. Alors ça, c'est un terme que nous n'avons pas encore rencontré, un terme turc et non pas arabe ou persan, comme les termes que j'ai pu citer jusqu'à maintenant, mais un terme dans lequel vous retrouvez la racine « kul », n'est-ce pas, dont je vous ai déjà dit qu'il c'était en turc une des façons de désigner les esclaves. Eh bien, ces kulukç, ce sont, peut-on supposer, des troupes ayant ce statut servile. De la même façon, une chronique grecque anonyme du XVIe siècle attribuera à ce même Uzun Hasan ce que la chronique appelle des Adjem Olan, littéralement des garçons étrangers, ce qui est le sens premier de Adjemi, qui peut être une préfiguration des Adjemi Olan ottomans ou peut-être une contamination chez le chroniqueur grec du XVIe siècle de ce qui existait à son époque sous ses yeux dans le régime ottoman. Voilà donc un aperçu des différentes manifestations du paradigme mamelouk dans la partie orientale du monde musulman dans les siècles suivants la création de cette institution par les Abbassides. Nous passerons la prochaine fois à une autre partie du monde musulman pour considérer le cas de l'Égypte, puisque c'est en Égypte que le paradigme mamelouk va trouver sa forme la plus extrême avec le régime mamelouk qui domine l'Égypte et la Syrie du milieu du XIIIe au début du XVIe siècle. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.